Jeudi 6 février, il est 21h, vous êtes toujours sur Radio Canu 102.2 et c'est bien l'heure d'une ère de la game. Le nerf de la game, l'émission qui aborde le monde du jeu vidéo par sa face alternative. Chaque semaine, ou presque, vous retrouverez un cocktail d'actualité sur les rouages de l'industrie du jeu vidéo et sur les titres qui attisent la curiosité, surtout du côté indépendant du paysage vidéoludique. Bonjour Romain.
Salut Xavier.
Ça va ?
Ça va, je suis content que tu te sois retenu.
Je me suis retenu. Et pardon, j'oublie l'info principale de la semaine. Bon anniversaire Romain.
Merci, c'est gentil. Effectivement, c'est aujourd'hui.
Et oui.
Il fallait que ça tombe aujourd'hui.
19 ans.
C'est ça. Depuis presque 25 ans.
Ah quand même hein.
Ça commence à faire.
C'est ça. Écoute, je suis content de te voir fringant et toujours bon pied, bon œil à la barre de cette émission, hein, vu que c'est toi qui...
Oui, les problèmes techniques, c'est de ma faute.
Oui, voilà, c'est ça. Oui, voilà. Okay. Voilà. Mes hésitations, c'est de ta faute aussi.
Ah, ça, c'est, ouais, c'est plus compliqué, ça.
Oui, bah voilà.
C'est parce que je fais des gestes.
C'est ça. C'est ça. Tu bouges trop, je j'arrive pas à tout interpréter.
Mais t'es en train de dire de la merde. Ouais,
ouais. Oui, bah t'arrêtes pas, c'est fou.
Bah non, mais en même temps, c'est pas de ma faute.
Cette semaine on va parler de BioWare et de Electronic Arts. Des dernières nouvelles au niveau du studio BioWare, studio mythique au niveau notamment du jeu de rôle à l'occidental.
Tout à fait.
Mais on va d'abord commencer par parler de Apple, d'Epic, de Google, de Steam et globalement des commissions et des procès.
D'accord, donc t'es parti en mode juridique.
Voilà, okay. un grand sujet.
Tu fais ça parce qu'il s'est passé quelque chose récemment ?
Pas forcément. Okay. Je fais pas ça parce que il s'est passé des choses très 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 récemment, genre dans la semaine ou quoi que ce soit. Par contre, l'année 2020. L'année 2020, voire fin 2020, début 2021, a été déjà secouée en termes au niveau du monde du jeu vidéo par les différents procès qui ont été intentés par Epic Games envers Apple et envers Google. Epic Games qui, en lançant l'Epic Game Store, a toujours voulu mettre en avant une commission moins forte que celle pratiquée par ses concurrents.
Par les concurrents en général, effectivement, même si dans leur discours, ils parlaient surtout de Steam.
Voilà. À l'époque, ils parlaient uniquement de Steam, mais en fait, à savoir...
Mais ce n'était pas leur seule cible, effectivement.
C'est ça. La commission, de manière générale, que ça soit sur mobile ou sur n'importe quelle plateforme de distribution, elle est unanimement, quasiment tout le temps, de 30%. C'est quoi une commission ? Juste pour commencer.
C'est un bon début.
Oui, voilà. Lorsque je suis, mettons que je sois éditeur d'un jeu ou que je développe un jeu et que je veux le vendre sur une plateforme, la plateforme en question, quand elle va vendre le jeu, elle va récupérer 30% du prix de vente de la plateforme, du jeu, pardon. C'est le pour l'hébergement, pour la mise en avant, pour ce que vous voulez.
Oui, pour tous les services qui sont associés à la plateforme.
C'est ça. Et ce sera pareil aussi pour les éventuelles microtransactions qui ont lieu dans le jeu. C'est-à-dire que, mettons que j'ai un jeu de football qui me permette d'acheter des cartes.
Au hasard.
Au hasard.
Complètement au hasard.
Vraiment au hasard. Lorsque je vends des cartes dans ce jeu, l'utilisateur va payer ces cartes-là et 30% de cette somme-là va arriver dans les poches
de celui qui
de la plateforme.
Ouais, voilà, là où tu l'achètes.
Exactement. Voilà. Et Epic, son business, et son Epic est une très vieille boîte. Hein. Epic,
on a déjà parlé plusieurs fois ici.
Est une très très vieille boîte. Mais là, si on parle d'Epic et de sa puissance actuelle, c'est grâce à un jeu qui s'appelle Fortnite. Fortnite est un jeu qui est distribué gratuitement par Epic Et l'argent, tout le business plan et l'argent que gagne Epic, c'est via des achats cosmétiques en jeu. Ok, ils se font des millions, voire des milliards.
Des milliards, chaque année.
Chaque année. Mais ils se disent, ils pourraient se faire plus. Parce que 30% des microtransactions, 30% en fait des achats cosmétiques qui sont faits dans le jeu, le chiffre d'affaires leur passe sous le nez et ils doivent le donner à des plateformes qui ils estiment que ce sont des prix qui sont abusifs. Étant énorme en termes d'impact, ils se disent on va faire, on va utiliser notre poids financier et notre poids juridique pour attaquer les différentes plateformes
pour position abusive.
Position abusive.
C'est, le terme exact, c'était, tu sais, enfin, tu. Justement, parce que c'est important en fait en termes de.
Abus de position dominante.
Ouais, voilà. Parce que c'est vachement important finalement, parce que le principe de la commission, comme tu l'as dit, ça existe depuis toujours.
Oui.
Et à partir de quel moment, effectivement, tu considères que ça justifie en fait une attaque en justice pour contrer finalement un système qui est en place depuis longtemps.
C'est ça. Alors, soyons clairs. Ça aurait s'appelé, si le motif juridique avait été, en fait, ils ont des yeux bleus au lieu des yeux noirs, ils auraient dit. Ils ont des yeux bleus à l'heure des yeux noirs, il faut qu'ils crachent la thune. Vraiment, c'était le but clair, c'était on veut que les commissions soient moins fortes pour avoir plus, pour que on récupère plus de bénéfices par rapport au chiffre d'affaires qu'on fait. Le chiffre d'affaires, c'est combien on vend, et le bénéfice, c'est combien ça nous rapporte.
Après, ouais.
Voilà. Il se trouve que donc le premier procès en fait ça a pas été sur contre Steam pour le coup. Ils ont été très tranquilles par rapport à Steam vu que Fortnite n'est pas distribué sur Steam.
Alors que d'autres jeux Epic Games.
D'autres jeux Epic le sont. Mais
historiquement ils l'ont été. Ouais.
Mais ils se sont attaqués à un autre marché qui n'est pas le marché du jeu sur PC, vu que Steam c'est le jeu sur PC, c'était le marché de jeux sur mobile. Donc la première cible, ça a été Apple. Je ne vais pas refaire toute l'histoire, je vais plutôt dire ce qui s'est passé il y a un an. En janvier 2024, la Cour suprême des États-Unis a refusé de se saisir de l'affaire opposant le concepteur de l'iPhone, Apple, à l'éditeur de Fortnite, Epic Games. Par conséquent, officiellement, la bataille entre Apple et Epic est terminée.
D'accord. On va aller plus loin.
Avec d'un côté, Apple... qui avait gagné le procès de base, où Apple avait gagné 8 des 9 chefs d'accusation. Le seul qui a été perdu oblige Apple à laisser les développeurs d'applications ajouter sur leur appli des boutons ou des liens externes vers leur propre site internet. C'est-à-dire que
de chanter finalement ses commissions pas complètement.
Non. Chanter les commissions, ça veut dire que Apple serait obligé de laisser installer sur le système Apple des systèmes de monétisation qui ne passent pas par leur propre système pour leur propre
L'Apple
magasin.
L'Apple Pay ou un truc comme ça, c'est l'Apple Pay.
Par l'Apple Pay.
Ouais.
Ok. Ce n'est pas le cas. Cette partie-là, Epic l'a perdue. Par contre, ce que Epic a gagné, c'est ils ont le droit de sur leur appli de dire si vous voulez acheter des V-Bucks et que ça nous rapporte des sous, allez directement sur notre site internet.
Oui, qui avant en fait c'était un site. Et ensuite, c'est devenu l'Epic Game Store. Enfin, ils ont commencé à le distribuer avec tout l'écosystème et toute la plateforme pour.
Après, par contre, d'un point de vue, le truc, c'est que d'un point de vue pratique pour le joueur, plutôt que si il veut acheter des V-Bucks directement sur l'application, il y a la commission qui passera par Apple. Mais si il est obligé de sortir du site, d'aller de l'application, aller sur le site explicite de Fortnite ou de Apple pour acheter des V-Bucks à cet endroit-là pour que ça donne de l'argent. Donc c'est pas extrêmement pratique, c'est pas une grande victoire pour Epic.
Oui, parce que ça complique finalement la démarche pour l'utilisateur. Et ce qui est, bon, on le sait tous, si ça commence à devenir un peu chiant, etc., pour les démarches, on le fera pas.
En gros, c'est quasiment équivalent à ce qu'ils avaient auparavant, où ils disaient en fait aux gens, débrouillez-vous pour jailbreak votre Apple pour installer une version de Epic Game Store, voilà tout ça. Donc, en gros, à moins que tu sois vraiment très loyal à la marque, la plupart des gens les gens surtout qui rapportent le plus, c'est-à-dire les gosses, est-ce que les gosses, ils ont pas accès à une autre carte bleue ? Ils ont accès qu'à la carte bleue qui est avec, dans le système.
Oui, techniquement, ils sont même pas censés effectivement prendre ce genre de décision eux-mêmes.
C'est ça. Donc, par contre, c'est très très simplifié. Une fois que t'es dans l'application, te dire du in-game, si ta carte bleue est déjà dans le système Apple Pay et que les parents oublient de mettre une restriction, ça part, tu vois. Chose qui est pas possible lorsque tu dois passer par un site externe. Voilà.
Oui, oui. Parce que du coup, tu sors de cette de ces garde-fous finalement, de cet environnement un minimum protégé, c'est contrôlé en tout cas, qui était un des arguments d'Apple d'ailleurs.
C'est ça, exactement. Et c'est pour ça qu'ils ont gagné d'ailleurs.
Oui, oui. Ils disaient que nous on vérifie quand même que personne ne prenne de risque, personne ne risque de se faire avoir, de se faire pirater ou quoi que ce soit, en passant par tout notre écosystème, et que c'est ça qui justifie notre commission aussi.
Voilà. Et donc, Epic a été débouté en fait sur toutes les autres demandes, notamment sur le montant des commissions sur les achats in-game ou la possibilité d'éviter le système de monétisation d'Apple, comme je viens de le dire. Donc c'est fini. Ou pas. Vu que selon Bloomberg, Epic Games estime aujourd'hui que Apple ne se soumet pas à l'ordonnance du tribunal obligeant Apple à ouvrir son App Store à des options de paiement extérieur.
Ok.
Sachant que et exige dans un document adressé au juge fédéral que Apple soit sanctionné pour ne pas avoir respecté la décision de justice. Alors le truc qui est rigolo là-dedans, c'est vraiment une interprétation de la sanction, parce que d'un côté Apple dit vous pouvez mettre des liens et on va pas casser les liens en question, et Epic dit le lien il doit être directement sur l'Apple Store.
Oui.
Et Apple va dire évidemment on va pas faire ça, on n'est pas cons.
Et oui.
Donc voilà. Donc affaire à suivre, parce que il y a juste un document qui a été transmis à un juge fédéral. Le juge fédéral en ce moment, il est trop occupé à se dire mais qu'est-ce que je vais foutre de tous ces mecs du 6 janvier, qu'est-ce que je dois en foutre de
tout ce qui risque d'arriver sous très
il a
très
pas
peu
le temps,
de temps
d'accord, en ce moment il a pas le temps,
il a autre chose à faire, on va dire.
Déjà, il veut savoir s'il a encore un métier d'ici la fin de la semaine.
C'est ça. Hein, il veut préparer quand même tranquillement la guerre civile.
Voilà. Donc, il n'a pas que ça à foutre. Donc, affaire encore en cours, même si, en fait, on est sur de l'interprétation de la sanction, mais le procès est censé être terminé.
Okay. Donc, en tout cas, actuellement, tant que personne ne bouge pas, rien ne se passe. Donc tant le statu quo actuel, il est...
À moins que Epic, s'ils veulent se faire Apple, il faut qu'ils trouvent d'autres chefs d'accusation et partir dans un autre truc.
Oui, parce que le procès actuel, le résultat a été déjà décidé.
Donc là, c'est plus sur l'interprétation de la décision qui
va pas complètement dans leur sens, mais qui leur a quand même accordé 2-3 trucs. Enfin,
c'est ça. Globalement, Apple, même si c'est encore plus ou moins en cours, Apple s'en est très bien sorti d'un point de vue juridique. Ils ont évité la catastrophe qui est de, on est obligé de laisser les applications utiliser leur propre système de monétisation et rien toucher dessus, quoi.
Oui, ça aurait été effectivement presque d'une certaine façon, d'un regard extérieur, la moins juste des solutions.
Voilà. Alors, par contre, Google a visiblement de moins bons avocats. Parce que Epic a fait condamner Google pour abus de position dominante.
Ok. Sur exactement les mêmes accusations, les mêmes conséquences. Et d'ailleurs, la même marge, la même com que prenaient Google et Apple.
C'est ça. La différence est simplement le nombre de parts de marché.
Ah.
Pas de bol.
Mais pas pourtant, Apple, de ce que j'entendais, c'est quand même que globalement, sur le marché du mobile,
oui.
Apple, ils sont...
Ah, c'est bien.
Ouais.
Mais regarde le nombre d'Android et le nombre de, d'iOS, quoi.
D'extérieur, sans avoir le chiffre, effectivement, j'aurais dit Apple, mais...
Ah, c'est loin d'être le cas.
Ok.
Tout simplement parce que les prix des téléphones Android, c'est largement inférieur.
Oui, mais sur
et donc, en répartition.
Mmh.
En répartition, il n'y a pas photo.
Ok.
Il n'y a pas photo. Et donc, concrètement, ça signifie que Google va être contraint de laisser les États-Uniens et États-Uniennes à télécharger des magasins d'applications alternatives directement depuis le Play Store.
Je sens qu'il y a une douille.
En gros, il n'y a plus question en fait d'aller chercher genre l'Epic Game Store sur le web, l'installer directement via un câble ou via Bluetooth, essayer de l'installer à la mano et faire des manips bizarres. Non, en fait, tu vas sur le Play Store, tu dis bonjour, je voudrais l'Epic Game Store et t'installes l'Epic Game Store.
Ok.
Et avec l'Epic Game Store, en plus, tu peux installer ces logiciels comme n'importe quelle autre application. Et ces logiciels-là ont leur propre système de monétisation.
Ok. Donc Google, en fait, ne sert que de
passe-plat,
quoi.
Là.
Ok.
Alors, par contre, il y a un petit truc à comprendre, c'est que le fait de pas passer par la monétisation, d'avoir une monétisation indépendante, ça ne sera valable que 3 ans. Je ne sais pas pourquoi, ça n'est valable que 3 ans.
Oui.
Le temps que la concurrence dit que on peut le laisser ça pendant 3 ans. Si une autre application de magasin arrive à s'imposer à ce moment-là, elle aura 3 ans pour s'imposer, mais après ils pourront fermer les vannes au bout de 3 ans.
D'accord.
Pourquoi, comment, j'ai pas compris la logique, très honnêtement. Il faudrait. J'ai essayé de lire quelques articles en anglais, j'ai pas tout suivi du pourquoi du comment.
Ouais, l'explication du pourquoi 3 ans.
Voilà.
Bon.
En plus de ça, donc Google ne pourra plus imposer son système de paiement aux applications distribuées par le Play Store et devra laisser les développeurs proposer des méthodes de téléchargement alternatives sur la fiche du Play Store. Vraiment, ils se sont fait, voilà.
Ah, ils ont rien gagné. Oui.
Et voilà. Et en plus, dernier truc, ils ne peuvent plus acheter les droits exclusifs les droits de distribution exclusives pour les applications les plus populaires. Parce qu'en fait, ce qui se passait, c'est que quand il y a des applications qui devenaient super populaires, le Play Store disait « Ok, on achète des droits exclusifs, donc vous ne pouvez plus proposer sur votre site internet de le télécharger. »
Sur un autre moyen d'accès
c'est
au
ça.
Même truc,
c'était, c'est ça.
Tu ne peux pas dire « Ok, c'est dispo là, mais là aussi, mais là aussi, mais là aussi. » Non, c'était que chez eux.
Voilà, c'est ça, sur certains trucs. Et ils n'ont plus le droit de le faire maintenant.
D'accord.
Victoire est majeure pour Epic. Ouais.
Et pourtant, j'ai envie de dire, on a beaucoup entendu parler du procès contre Apple. Et très très peu du procès contre Google.
Oui, c'est parce que le procès contre Apple c'était le premier. Et aussi c'est parce que le procès contre Apple, on a eu des moments assez drôles. On se souvient peut-être de la fameuse de la visioconférence du procès. Dont l'adresse avait fuité, et donc il y a plein de joueurs de Fortnite qui s'étaient mis dessus et qui avaient laissé des messages assez explicites à base de je ferai des choses innommables pour pouvoir rejouer à Fortnite sur mon iPhone. Enfin. Et qui montrait notamment la déconnexion totale entre les juges, les judiciaires et la connaissance en soi de ce qu'était le jeu vidéo et tout ça. Donc ça a été, y a eu beaucoup de grands grands moments.
Il y a eu des leaks de documents internes également
de chez Apple,
et de chez Epic aussi.
Beaucoup moins chez Google qui a été plus prudent là-dessus.
Quand tu dis c'était le premier celui d'Apple, c'est-à-dire que celui de Google il s'est passé quand?
Après, à partir de 2021.
D'accord, donc pendant que l'autre n'était pas encore résolu.
C'était encore les confinements,
ouais.
Mais ça a commencé en 2021. Et voilà, donc c'était. Et ça a été. Et ils ont. La décision par rapport à Google, c'était il y a un certain temps, hein, c'était déjà. C'était fin 2023. Ce dont je te parle.
D'accord, ok, effectivement. Comme je te dis qu'on n'en a pas entendu parler.
Ouais.
peu entendu parler, et on, quand je dis on, c'est toi et moi dans un domaine où on s'intéresse quand même un minimum à l'actualité sur le sujet.
Après, et d'ailleurs, c'est aussi le fait que Epic n'a pas énormément communiqué dessus, sur cette victoire majeure.
Oui, c'est vrai qu'ils ont beaucoup parlé de leur non-victoire en la présentant comme une victoire, parce qu'ils avaient quand même obtenu des trucs, mais bref, il y avait effectivement tout un storytelling autour finalement de la bataille contre Apple, beaucoup moins effectivement contre Google.
Après, ça se comprend en soi, sur le côté, faire les fanfarons sur une victoire, parce qu'au final, ça reste... c'est plus facile de dire ça, c'est la normalité, et de toujours être dans la position de victime, entre guillemets. C'est-à-dire qu'ils sont la victime des méchants GAFAM qui veulent pas leur laisser la place. Je dis pas que c'est la réalité, je dis que c'est la position d'un point de vue d'un point de vue communication.
Tout à fait.
Et elle est plus maligne d'avoir cette position-là que de dire on est à égalité avec eux, alors que pour le coup, d'un point de vue financier, ils sont pas du tout à égalité.
Alors, pour accorder ça à Epic, ils ont quand même un petit peu cette démarche-là, malgré tout, d'ouverture, je trouve, avec leur Unreal Engine.
Oui.
Qui est quand même très ouvert en termes de d'accessibilité et de conditions financières, entre guillemets. C'est-à-dire que c'est un logiciel donc pour créer c'est un moteur pour créer des jeux, qui te demande pas énormément de part sur les revenus que tu vas faire avec pour avoir le droit de l'utiliser, qui t'accorde des réductions supplémentaires si tu vends ton jeu fait avec leur Unreal Engine sur l'Epic Game Store. Enfin, ils ont fait un certain nombre de choses en fait pour que de leur côté, si tu veux, leur écosystème à eux, lié à l'Unreal Engine, soit relativement développeur friendly. Oui. D'une certaine façon.
Je pense qu'aussi, il y a un autre truc aussi.
Pas à fond, on va te prendre 30-40% de marge. N'hésitez pas dans cette démarche.
Si je dis pas de bêtises, fin 2023, c'était aussi la partie avec Bandcamp, tous les bisbis avec Bandcamp.
Oui.
Je pense qu'en termes de communication, c'était pas extrêmement bien.
Pas le moment de ramener pas le moment de la ramener.
Je pense qu'il y a eu de ça aussi. Oui. Hein.
Non, c'est possible, possible. Mais c'est vrai que je ramène. Enfin, on peut accorder ça à Epic par rapport à cette façon de gérer ça en particulier. Par la façon de gérer les user friendly et tout ça par rapport à l'Epic Game Store, c'est complètement autre chose.
Ça, c'est autre chose. Mais en tout cas, par contre, sur le côté, ils ont toujours été très clairs sur le fait de, on veut des conditions de commission qui soient les plus basses possibles partout où on est.
Oui.
Et c'est valable aussi sur l'Unreal Engine, d'ailleurs.
Tout à fait. C'est pour ça que je dis ça. C'est une logique générale, qui voudrait généraliser, parce que ça leur semble, en tant que développeur de jeu, ça leur semble normal de gagner le maximum d'argent quand tu crées toi-même le jeu plutôt qu'à la plateforme.
Oui.
Et c'est une position qui s'entend. Hein. Mm. C'est une position qui s'entend, mais on avait déjà parlé sur effectivement la guéguerre avec Steam. Tu avais évoqué Steam au tout début de ton intervention.
Juste avant de parler de Steam rapidement, juste la dernière news par rapport à Google, c'est qu'il y a un partenariat qui a été signé entre Epic et Telefonica.
Qui est-ce donc ?
Telefonica est en fait un opérateur mobile. Et en fait, le but, c'est de préinstaller l'Epic Game Store sur tous les smartphones commercialisés par Telefonica. Et on se dit, bon, bah, Telefonica, c'est qui ?
Oui, c'est ce que j'ai dit.
Bon, Telefonica, c'est O2.
Ah, ça commence déjà à parler un peu plus.
Voilà.
Ok.
Telefonica.
C'est moins petit d'un coup.
Oui, bah oui, Telefonica, c'est Vodafone. Voilà, donc c'est
une petite partie du marché mondial. Hein?
Non, c'est costaud, c'est du très très costaud.
Quand même, oui.
C'est du très costaud et le fait que sur tous les téléphones, en gros, c'est comme si chez nous, par rapport au marché, c'est comme si demain il y a Orange qui dit en fait sur tous les téléphones vendus avec Orange, il y a Epic Game Store dessus.
Ouais,
c'est beaucoup. Hein.
C'est beaucoup et d'une certaine façon, alors l'installation d'un logiciel. Ça ne t'oblige pas à l'utiliser.
Non,
ça t'oblige
c'est
à
la
rien.
Préinstallation.
Mais effectivement,
c'est la préinstallation.
Ça sera là quoi qu'il arrive.
Et en plus, je te rappelle que sur l'Epic Game Store, tu fais deux clics et Fortnite est installé. Hein.
Oui, mais c'est sa seule raison d'être. Mais
évidemment.
Alors, petit aparté, ils viennent effectivement de rajouter là des jeux gratuits également sur mobile. Dans l'Epic Game Store. Enfin, du coup, pour aller dans ce sens-là
c'est aussi,
rendre le truc d'autant plus intéressant.
Je pense que ça fait partie de la stratégie qu'il y a avec. Ouais.
C'est relativement surprenant parce que c'est pas une stratégie qui fonctionne sur PC. Mais, oui, mais peut-être que sur mobile, c'est pas
con. Pour le coup, c'est beaucoup moins con. Parce,
beaucoup vu plus que, la culture du gratuit.
Et vu que la stratégie, elle est beaucoup sur l'achat in-game, beaucoup plus sur mobile que sur PC.
Bien sûr.
Ça peut être le jackpot. Pour
ça peut mieux marcher, en tout cas.
Potentiellement. Pour Steam dans tout ça, Steam n'a pas de problème avec Epic, juridiquement parlant.
Non.
Pas encore.
Et même communication, en fait, non, au tout début... Va.
Ah, c'était la guerre.
C'était la guerre d'un côté.
Non, c'était la guerre de Epic. J'ai dit, on va les tuer.
Alors Valve, il les regardé de haut en leur disant, viens, tu sais.
Non, viens, c'était. T'es qui? C'était honnêtement, t'es qui?
C'est ça. Tu gagnes combien avec Fortnite? Ouais. Ah ouais, moi, c'est ce que j'ai en une journée sur Steam. Donc,
voilà.
Ils s'en foutaient pas mal.
Depuis, Epic a gagné encore plus sur Fortnite. Faut le reconnaître.
Ah oui, ça marche.
Par contre, au niveau du store, ça c'est autre chose. Ça marche pas.
Ils n'ont pas pris la part de marché. Ils ont quand même eu un effet, effet de bord sur Steam.
Oui,
ses conditions de commission.
Oui, avant c'était 30% pour tout le monde. Voilà. Maintenant c'est de 20 à 30.
C'est ça. C'est-à-dire que tu vas réduire la commission de Steam va réduire si tu dépasses un certain revenu. Alors, je crois que c'est au-delà d'un million ou 10 millions.
Oui.
Je sais plus dans ces eaux-là. Et j'aurais. À titre personnel, j'aurais trouvé ça plus logique, si tu veux, qu'ils prennent que 20% sur les petits, et que si tu commences à gagner beaucoup, beaucoup, là, d'un coup, tu prends un peu plus.
Non, prête pas riche.
Ça aurait été une démarche dans le bon sens pour les petits des petits créateurs.
T'as cru quoi, que c'était des gauchistes? Non.
Non. Disons que faire cette modification-là, je la trouve presque plus cynique qu'autre chose.
Non, mais moi, je veux bien que tu les aimes bien, mais...
Justement, il faut leur taper dessus quand il y a grand
faut pas raisons. Oublier que Steam, c'est je pense la boîte du jeu vidéo la plus rentable du monde. Parce qu'ils sont 300, 400.
Ils sont 300, ils sont 4 dans un garage.
Ils sont 400. Par exemple, un BioWare dont tu parlais, jusqu'à pas si longtemps, ils étaient plus que ça.
C'était 200. Ils étaient 200.
Ouais, d'accord.
Ils sont plus 200, mais on en reparlera.
Oui, on en reparlera. Par contre, Steam, commission 20-30%, même si ça passait à 20, c'était pas suffisant pour certains. Mm-hmm. Vu que c'est une action en justice qu'on avait vraiment oubliée, parce que en 2021, Wolfire Games, le studio qui avait créé le concept du Humble Bundle avant de le faire piquer et racheté par les gens qui ont fait IGN.
Ziff Davis.
C'est ça. Wolfire Games a porté plainte aux États-Unis contre l'éditeur de Steam pour abus de position dominante. Une démarche qui a été accompagnée toujours la même année par un autre procès antitrust intenté par un autre studio qui s'appelle Dark Cat, que la petite personne je ne connais pas. La raison, c'est les commissions de 20 à 30% retenues par la plateforme à chaque vente de jeu qui sont jugées comme une norme industrielle par Valve. Et c'est vraiment l'un des principaux éléments retenus par Wolfire et Dark Cat contre Steam. Alors forcément, déjà à l'époque, on est en 2021, Epic proposait une commission de 12%.
Et encore un peu moins sur certaines situations, certaines conditions, mais oui. 12%, c'était en tout cas la communication là-dessus.
Un autre gros a également passé à 12%.
Tiens donc.
Microsoft.
Oh.
Microsoft est aussi passé à 12%.
Sur leur Microsoft Store, qui est une plaie intersidérale à utiliser.
Non, mais que personne n'utilise, mais...
Parce que t'as envie de te pendre plutôt que de l'utiliser. Mais oui.
C'est ça.
Ok. À peu près dans ces eaux-là, en termes de timing, cette époque-là ou...
C'est en 2021 aussi. Oui.
Ok.
Voilà. T'as vu? C'est depuis 2021 qu'ils l'ont fait. Tout le monde s'en fout et personne ne le sait.
Personne s'en sert.
Voilà. Les démarches de Wolfire et de Dark Cat ont été rejetées dans un premier temps par la justice américaine en novembre 2021.
Ouais.
Donc c'est pour ça que ça avait été évacué par les news.
Ouais.
Et par contre, les éditeurs, ils ont le droit de réviser leur copie pour relancer le procès conjointement en 2022. Et l'épisode judiciaire qui a eu lieu en décembre dernier, qui vient de faire évoluer en fait le procès de manière significative, parce que désormais c'est un procès en recours collectif.
Ok.
Qui fait que ça signifie que les deux plaignants initiaux peuvent être rejoints par d'autres studios.
Mm-hmm.
Pourquoi pas Epic?
À voir, effectivement.
Ou d'autres.
Ça aurait du sens. Et on n'en sait pas plus pour l'instant de si d'autres gens les ont rejoints sur
pour l'instant, ça date de décembre et il n'y a personne qui l'a annoncé. Il n'y a pas de déclaration publique comme quoi on rejoint le recours collectif, sachant que le système des recours collectifs aux États-Unis, tu n'es pas obligé de te déclarer publiquement que tu es dans le recours collectif.
Ok. Hein? Mais par contre, ils n'ont pas de deadline, ils n'ont pas, tu vois, une limite de temps pour dire ok, c'est bon.
Le procès aura lieu en 2025. Donc, le procès aura lieu de manière sûre en 2025. Mmh. Donc j'imagine que c'est dans les prochains mois qu'on en saura un peu plus.
Okay.
Pour rappel, les demandeurs, en fait, ils soutiennent que les politiques de Valve portent atteinte à la concurrence de trois manières cruciales. Steam garantit une commission disproportionnellement élevée. Les développeurs et les éditeurs ne peuvent pas rivaliser en termes de différents systèmes de distribution. L'abus de position dominante.
Mmh.
Et les plateformes concurrentes peinent à gagner du terrain sur le marché, toujours abus de position dominante. C'est.
J'entends les termes.
Une fois de plus.
J'entends les termes.
Une fois de plus. Là, c'est la plainte qui est donnée. C'est les termes de la plainte du recours collectif. Valable ou pas, ce sera au juge américain de dire. On se dit juste que. Je peux pas dire dans quel sens ça ira. Néanmoins, ce qui va se passer, c'est que on aura forcément des raisons de si la chose est confirmée, si il y a un juge qui dit s'il y a un juge qui dit que ce sera que la plainte est valable, c'est pas si étonnant en tout cas vu ce qu'on a entendu par rapport à Google. Juste précédemment, c'est pas si déconnant que la plainte puisse aboutir.
Mmh.
Voilà.
Ok. Ok. Non, voilà, c'est intéressant parce que du coup, ça va ouvrir aussi si cette décision-là est prise par rapport notamment à la valeur, à la hauteur de la commission. Alors, tu peux te poser la question pour le Nintendo Store.
Aussi.
Pour le PlayStation Store.
Pour tout le monde.
30% aussi.
Évidemment.
C'est le standard dans l'industrie.
Et surtout.
Et, pas c'est, que d'ailleurs dans l'industrie.
Oui,
du
voilà.
Jeu,
hein, c'est ce que dit Valve à la base. Mm-hmm. C'est que Valve, ils disent que 30%, c'est une norme industrielle.
C'est ça.
C'est pas
le chiffre et que voilà. Et ils peuvent je pense qu'ils auront des arguments pour dire c'est justifié par justement certaines choses et je pense qu'une de leurs défenses qui a toujours été d'ailleurs un peu le sujet sur le fait que abus de position dominante voudrait dire effectivement impossibilité pour d'autres plateformes comme tu le disais de prendre des parts de marché sur le marché c'est disons que Steam a des arguments et en tout cas a des actes pour dire on n'a jamais interdit quoi que ce soit, on n'a jamais empêché quoi que ce soit, on n'a jamais imposé quelque chose à l'inverse de l'Epic Games Store par exemple qui lui justement faisait en sorte d'avoir une exclusivité sur le produit volontaire. Sur Steam tu as des jeux qui ne sont disponibles que sur Steam mais c'est un choix des éditeurs, développeurs. C'est jamais Steam qui dit ton jeu sera que chez nous à part pour leur propre jeu à eux. Mais ça n'a jamais été un choix et un deal commercial ou ce genre de choses de la part de Valve d'aller acheter des jeux, une exclusivité.
En tout cas, Valve n'est pas aussi serein que toi.
J'ai pas dit que j'étais serein.
Eux, ils sont pas sereins.
Ça a toujours été, en fait, d'une certaine façon.
Vu qu'ils ont rejeté les allégations et surtout, ils ont ciblé le témoignage du docteur Steven Schwartz, expert et témoin, dont les conclusions présentent Valve comme une force dominante dans la distribution de jeux vidéo PC.
Mm-hmm.
Valve a fait valoir que les conclusions du docteur Schwartz étaient basées sur des méthodes défectueuses et hypothèses inappropriées et a cherché à faire rejeter son témoignage.
Mm-hmm.
Cependant, le tribunal a rejeté cette demande. Permettant à l'analyste de Schwartz de toujours faire partie du procès.
Alors, qu'ils soient en position dominante, oui, qu'ils essayent, en tout cas, qu'ils l'aient provoqué et qu'ils s'en servent pour empêcher les autres de monter, eux-mêmes, par leurs actes, c'est quelque chose que, pour l'instant, en tout cas, moi, j'ai pas encore vraiment vu de réelles traces de ça.
Entre guillemets, une fois de plus, ce qui est arrivé à Google juste avant, alors que Apple a des grosses parts de marché. Tant à voir que Valve, je pense, a raison d'être
un petit peu inquiet par rapport à ça.
Et surtout, pourquoi ? Parce que, en fait, ce que relève Game Industry, En l'état, le géant américain pourrait devoir de l'argent à toute personne ou entité qui, directement par l'intermédiaire d'un agent, ont payé une commission à Valve dans le cadre de la vente ou de l'utilisation d'un jeu sur la plateforme Steam à partir du 28 janvier 2017.
Ah ouais, ça remonte pas mal, hein.
C'est-à-dire que t'es obligé de rembourser tout.
Oui, oui, t'es obligé de claquer pas mal de pognon.
Ça fait beaucoup d'argent à lâcher.
Ça dépend combien ce sera par personne, mais oui, oui, voilà. Ça peut faire beaucoup. Ouais.
Voilà. En l'occurrence, en fait, voilà. Et ça fait. C'est une décision, en fait, forcément, qui concernerait en l'état que les jeux achetés aux États-Unis ou qui s'appliquerait à des éditeurs basés aux États-Unis.
D'accord.
OK.
OK. Donc c'est pas uniquement. Ouais, OK.
Mais donc c'est pas uniquement les trucs aux États-Unis, mais c'est aussi les auditeurs basés aux États-Unis et tout ça. Enfin.
Et depuis 2017. Enfin,
depuis 2017.
Il aurait fallu être basé déjà à l'époque.
Ouais, voilà.
Il y a pas des mecs qui vont se relocaliser vite fait en urgence.
Voilà,
quoi.
Oui, c'est ça. Faut être là depuis 2017. Mais ça fait que en gros, si tu fais le calcul, sur les 17, t'as 18%. S'ils disent, bon, bah maintenant la nouvelle norme industrielle c'est 12 et pas 18.
C'est une bonne question d'ailleurs, effectivement. Où est-ce qu'ils vont situer cette norme
industrielle? Voilà, mettons que sur cette hypothèse-là, en fait, il faut que tu prennes 18% des commissions que tu as versées depuis 2017 sur tous les jeux américains. Ouille!
Ouille, un petit peu. Oui.
Ouille!
Faut voir ce qu'ils
ont fait.
Va falloir
en vendre des Steam Deck. Hein.
Bah, ça dépend ce qu'ils en ont fait, ce pognon. En fait.
C'est clair.
Où est-ce qu'ils l'ont mis dans un coin et que du coup il est dispo? Bon.
C'est ça. Donc c'est pour ça que je pense que Valve est assez sur la défensive là-dessus. Je terminerai juste parce que il te faut un peu de place quand même. Désolé, mais c'était comme on n'a pas parlé depuis longtemps, qu'il y a beaucoup de trucs
bien,
à dire, tout
petit,
ça.
Un petit mise à jour.
Ouais.
De ça.
Je terminerai juste que en gros tous les dés ils sont pas jetés par rapport pour Steam, hein, et il reste encore du temps avant que la justice américaine prenne sa décision et que les différents acteurs aient fini d'avancer leur pion, que ce soit pour Steam, que ce soit aussi pour Epic, même si pour Epic les décisions semblent déjà beaucoup plus finales. Dernier petit truc, vous savez Google qui a perdu tout à l'heure, hein? Bon, ils ont demandé à journée à décision parce qu'ils sont pas prêts.
D'accord.
La repousser de 3 mois.
3 mois?
Oui.
Bon, ça va.
Oui.
C'est rien.
Oui, mais de la repousser de 3 mois, le temps d'interjeter un appel qui serait suspensif.
Oui. Bah, évidemment. Évidemment. Ça aussi, c'était un petit peu prévisible.
Voilà. Donc pour Google, c'est pas terminé. Néanmoins, pour l'instant, ils ont perdu.
Oui, oui.
Voilà, ils ont perdu, et c'est pour ça que Telefonica peut faire légalement installer des trucs directement sur l'Android et que ça pose pas de problème. Donc voilà.
Ok, bah à suivre du coup parce que
toujours à suivre. Le truc c'est que forcément,
oui, tu vas jamais t'arrêter. Ouais.
Le truc c'est que si on fait pas des points d'étape comme ça,
oui, t'es perdu sinon. Enfin d'un coup t'en as pour 3 heures.
Oui bah c'est ça. Si on fait pas des points d'étape comme ça, clairement en plus si on avait dit ouais on arrête, on en parlait en 2030 quoi.
Bah à mon avis on en reparlera encore. Enfin, c'est pas des choses qui vont être finies en termes de.
Mais je pense qu'on fera le point annuel. Je pense. On va faire ça.
C'est marrant que personne parle de itch.io, donc ce store où tu peux acheter des jeux qui sont également parfois disponibles sur Steam, les mêmes.
Il y a des jeux qui sont en exclusivité là-bas d'ailleurs, c'est pas un abus de position dominante d'ailleurs.
C'est une bonne question. Et, alors vu la gueule des jeux, mais itch.io, donc depuis sa création 2016-2017, je sais plus exactement quelle date, il y a quelques années quand même, eux proposent effectivement un système de commission différent, c'est-à-dire que c'est complètement au choix du développeur. Ça peut être zéro. Ça peut être 100% pour la plateforme. C'est au choix du développeur. Et itch.io propose, de façon standard, si tu touches à rien, si tu mets ton jeu et que tu machins, c'est 10%.
Ok.
Donc, moi, c'est pour ça que ça a toujours été intéressant comme argument, parce que t'as Epic qui venait et disait « Ouais, 30%, 30%, machin, nous on fait 12%, regardez, on est les premiers, on est les seuls à faire ça. » Non. Voilà, c'est juste un petit détail.
Oui, alors écoute, ta plateforme de bouse. Bon, vas-y, continue.
Ah,
non, mais continue.
On est bien d'accord par rapport à la.
J'ai jamais rien acheté sur Itch. Bon.
Mais c'était déjà. Sur Google Games, c'est également 30%. Plateforme qui a déjà un peu plus de présence.
Oui. Google Games, faudra aussi parler dans quel état c'est.
Et de comment c'est géré.
Dans quel état c'est, de comment c'est géré et comment. Et de l'autre côté, de comment fonctionne leur système de patrimoine.
Oui, oui, parce que ça c'est intéressant malgré tout.
Non mais c'est pour ça. Enfin, il y a pas les grands gentils, les grands méchants. Il y a plein de choses intéressantes sur Google Game.
Ouais. C'est pas con. C'est un bon sujet ça pour pas pour maintenant. Oui. Bonne idée. oui, donc, tu parlais pognon.
De sous-sous.
Eh ben, on va continuer. On va continuer à parler pognon, mais pas forcément avec des chiffres en termes d'argent. On continue avec des chiffres.
Tu as remarqué que j'ai pas balancé des millions de dollars ou des trucs comme ça. J'ai juste dit des pourcents.
Oui, oui, oui.
Et de potentiellement des beaucoup d'argent.
Parce
potentiellement
que sinon, beaucoup d'argent. Ça fait mal à la tête.
Ah, mais c'est en milliards.
Ouais, voilà.
C'est en milliards, donc c'est compliqué.
T'as pas envie d'en entendre parler. Mais oui, en parlant de Electronic Arts. Electronic Arts, qui est quand même un acteur du jeu vidéo historique, t'as l'impression qu'il y a depuis toujours.
Et en vrai, je pense que depuis qu'on est né respectivement, ça existait déjà. Hein.
Ah, c'est pas impossible.
Parce que je crois que c'est début années 80 pour Electronic Arts.
Dans les années 80. Hein. Mm-hmm. Mais voilà, c'est quand même un éditeur donc, qui a brassé pas mal de pognon avec quelques énormes licences. On peut citer les FIFA, dont on avait parlé il n'y a pas très très longtemps, quand ils avaient donc perdu la licence FIFA.
Oui, ils se sont beaucoup axés sur la partie sportive.
C'est ça, ils ont fait beaucoup.
Parce qu'on parle de FIFA, mais il y a aussi les Madden aux États-Unis, donc je joue au football américain. NHL, c'était eux aussi. Okay. Ouais. Donc ça a été ça.
Le fameux eSports, It's in the Game.
Voilà. Et puis, il y a c'est autre chose, même si c'est dans la... Bref.
On en reparlera, mais c'est pas là.
Bref, l'autre partie qui gagne énormément d'argent et dont personne ne parle, c'est la partie Maxis, avec Sims.
Avec les Sims, effectivement.
Les Sims, c'est beaucoup d'argent.
Effectivement. Ils ont aussi évoqué Apex Legends récemment.
Oui, c'est vrai. Mais je ne sais pas si ça rapporte autant de pognon qu'un Fortnite, par exemple. Tu vois.
Non, je ne pense pas. Mais ça rapportait quand même pas mal. Ouais. C'était quand même dans les jeux Platinum tout en haut, du classement des
revenus. Je dirais que ça a remplacé leur Battlefield, à peu près. D'un point de vue de thunes, parce que Battlefield, ça leur rapporte plus d'argent maintenant. Ils en font moins et ça a fait flopper, mais du coup, je pense qu'en termes de lignes comptables, ça a dû remplacer.
Oui, il y a dû y avoir un moment, effectivement, il y a dû y avoir une bascule de l'un vers l'autre. Mais en tout cas, voilà, Electronic Arts, énorme truc depuis toujours.
Depuis très longtemps.
Electronic Arts aussi, qui a longtemps eu aussi une réputation d'acheter des studios pour ensuite les emmener faire un tour au fond du jardin avec une pelle.
Ça a été les premiers avant Microsoft d'avoir cette réputation. Ça a été les premiers. Hein.
Et en même temps, ils ont flingué. Hein.
Dès les années, des années 2000. Hein,
fin des années 90, début 2000. Ça
a commencé déjà fort à base de viens au fond du jardin. Là. Ouais, il y en a un truc à te montrer. Petit ballon à la nuque.
Et puis t'es jamais revenu. Bon, voilà.
La fameuse... tous ceux qui ont connu peut-être Justic et la grande période du Kibouvki, il y a été là tous les mois.
Ah, c'est ça.
Tous les mois.
Mais du coup, c'est un truc énorme, effectivement, et qui a donc très très récemment donné ses chiffres, de résultats. Alors, c'est leur troisième trimestre de l'année fiscale 2024-2025.
Dire qu'on connaîtrait pas John Riticello s'il n'y avait pas eu Electronic Arts.
Et non, effectivement.
Le grandissime.
Au moins, ils nous ont apporté ça. Mais toujours est-il qu'ils ont donné leurs chiffres du troisième trimestre, qui correspond pour eux au mois de septembre-décembre, enfin octobre-novembre-décembre 2024. Et qu'en fait, ils ont gagné un tout petit peu moins que ce qu'ils avaient attendu.
Ils attendaient combien et ils ont gagné combien?
Il y a des chiffres là, mais c'est compliqué. Ils parlent de plusieurs milliards.
Bah oui.
Bref. L'important, c'est comment est-ce qu'ils l'ont expliqué d'une certaine façon sur le communiqué de presse, en fait, de ces résultats trimestriels. Ils ont expliqué que deux jeux en particulier. Alors, ils ont dit pendant le troisième trimestre, on a continué à livrer des jeux de très haute qualité, etc. Mais cependant, deux jeux, donc Dragon Age: The Veilguard et eSports FC 25, ont sous-performé nos résultats espérés, avec en précisant que Dragon Age The Veilguard donc avait engagé environ 1,5 million de joueurs. Ça veut dire des gens qui ont acheté le jeu, ça veut dire des gens qui ont joué au jeu à travers l'abonnement EA Play, je crois que c'est ça le nom du truc.
Oui.
Donc il y a, en gros, tu pouvais jouer au jeu en achetant un abonnement à EA Play, donc qui te donne accès à tous les jeux Electronic Arts, ou en achetant le jeu tout simplement à 60 balles, 70 balles, en fonction de la plateforme sur laquelle tu l'achetais. Il n'était pas disponible dans les Game Pass, ce genre de choses. Hein. Par contre, il n'avait pas d'autres moyens.
Donc ça, 1,5 million, c'est ça ?
C'est ça, c'est le nombre de joueurs.
En combien de temps d'exercice ? Un mois ?
Du coup, le jeu est sorti le 31 octobre.
En 3 mois ?
En 2 mois. Parce que ça s'arrête fin décembre.
Ah, pardon, excusez-moi.
C'est sur le troisième trimestre.
Ok, fait. Je pensais que...
Troisième trimestre fiscal, donc qui s'arrête en décembre.
Ok, en 2 mois. En 2 mois. Ok, et est-ce que, par hasard, tu as les chiffres équivalents pour le précédent Dragon Age ?
Non, il avait mieux commencé.
Pour comparaison.
Alors, il avait mieux commencé, mais c'était quand même en 2014. La situation était quand même assez différente.
Dragon Age Origins.
Inquisition, pardon.
Ouais, Origins, c'est encore avant.
Oui, encore, ouais. Mais du coup, voilà. Inquisition qui, depuis 2014, avait vendu, d'après Electronic Arts, 12 millions de jeux. Mm-hmm. Donc là, ouais, on serait sur 1,5 million en 2 mois. Ce qui est, pour Electronic Arts, une déception puisqu'ils en attendaient le double.
Ok.
Ils en attendaient donc le double, 3 millions.
Mm-hmm.
Donc, et c'est vrai que c'est la communication, en fait, d'Electronic Arts qui le dit de cette façon. C'est presque étonnant en vrai. C'est presque étonnant finalement de mettre celui-ci en avant, en tout cas de donner un chiffre de ce genre par rapport à ça, parce que du coup, première réaction évidemment de la bourse, qui est toujours quelque chose de serein, tu vois, un endroit où les décisions se prennent évidemment avec du recul. Le lendemain évidemment de cette annonce, l'action Electronic Arts a perdu quoi, 19%.
Juste sur l'argumentaire, la bourse, c'est
un endroit où il se passe des choses bien
totalement rationnelles. À l'annonce de la Switch 2, qu'est-ce qui s'est passé à la bourse?
Alors, relative grosse chute de l'action de Nintendo.
Ça a bien dévissé
En à peine 24 heures, c'était remonté.
Après, le marché s'autorégule, évidemment. évidemment.
Tu la vois, la main invisible?
Mais voilà, c'est juste le côté. En gros, les gens ont dit, oh là là, c'est pas assez innovant, donc ils vont plus en vendre des camions, donc ça va tanker, on s'en va.
Alors, effectivement, je pense que c'est deux relations différentes, parce que quand on te dit, on a gagné moins d'argent qu'on avait prévu, tu peux te dire, effectivement, mes dividendes vont être moins hauts, etc. Enfin, tu peux avoir ce genre de réaction...
Mais c'est ce qui se passe en général, je voulais gagner une piscine et j'aurais un grand bassin.
Voilà. Mais du coup,
c'est pas bien.
Du coup, c'est différent de. Ils ont présenté un truc que je pense pas qui sera. Tu vois, là, c'est de l'expectative. C'est le principe de la bourse. Hein, c'est que tu mises sur l'avenir. Là, tu mises sur l'avenir à partir de chiffres. Tu vois, de résultats bruts, chiffrés, etc. Bon, je suis pas rentré dans les. Je vais pas rentrer dans le détail, effectivement, des chiffres. Mais, malgré tout, entre un jeu qu'ils espéraient vendre 3 millions, donc un jeu vendu à 60 balles, 3 millions. On est sur une certaine valeur, j'ai envie de dire, envisagée et prévue. Sachant que c'est quand même un jeu qui a été développé pendant une dizaine d'années, donc, dans des conditions complètement foireuses, globalement. De la faute d'Electronic Arts principalement, mais BioWare est pas exempt de tout reproche là-dessus non plus, dans la façon dont ça a été géré par les leaders du truc. Mais le projet a donc été reboot deux fois, je crois. Pendant un temps, ça devait être une sorte d'MMO avec une composante multi. Enfin, ils ont fini par faire un jeu assez différent en termes de gameplay, en termes de concept de jeu des précédents Dragon Age, qui a pas forcément plu, qui a pas forcément convaincu les gens qui attendaient une suite à cette saga, donc qui s'est vendue depuis 2007, les premiers, je crois que c'est ça, donc à plusieurs dizaines de millions d'exemplaires, je crois, l'ensemble. Je crois qu'on a dépassé les 20 millions sur l'ensemble de la franchise.
Ça, à peu près. Ouais.
Donc voilà, il y avait quand même une certaine attente, un certain public qui l'attendait. Ils ont eu autre chose que ce qu'ils attendaient, pour la plupart en tout cas. Les retours principaux, c'est que le jeu n'est pas un mauvais jeu, mais c'est pas forcément un très bon jeu de rôle tel qu'on les attendait.
De ce que j'ai compris, c'est quelque chose, c'est plus un action narratif, plus qu'un
jeu de rôle avec, on va dire, un petit peu plus, peut-être, enfin, je vais pas dire tactique, mais enfin, les précédents Dragon Age avaient des systèmes de combat beaucoup moins dynamiques.
Oui.
Et on peut penser aussi, alors c'est peut-être un peu moins le cas pour les Mass Effect, qui avait un système de combat déjà beaucoup plus dynamique, mais parce que c'est quand même le même studio qui a fait les différents succès Mass Effect. Toujours est-il que voilà, de l'extérieur, entendre ce jeu-là entre guillemets être balancé sous le bus, hein, d'une certaine façon, par Electronic Arts, et surtout ne pas évoquer plus que ça, eSports FC.
C'est malin.
C'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Bon, ça va revenir leur mode de cul, mais on va en parler.
C'est plutôt malin, parce que, entre guillemets, on pourrait dire, waouh, quand même, 1,5 million plutôt que 3 millions, c'est des gros chiffres. Mmh. Non.
Non. Rapport à eSports FC.
Non.
eSports, alors, il y a eu
1,5 million, c'est le premier jour pour eSports.
Oui, à peu près, ouais. À peu près.
Pour un FIFA classique, sûr, c'est un premier sûr. Jour.
Et surtout que, j'avais vu la question être posée en ces termes. Est-ce que c'est parce qu'ils se sont débarrassés du terme FIFA? Ça pourrait être une explication si le eSports FC 24 vendu l'année dernière n'avait pas absolument tout pété en termes de vente.
Et c'était mieux vendu que FIFA 23.
Absolument. Donc c'est pas un argument. Donc le fait que le eSports 25 se soit moins vendu, en tout cas pas assez par rapport à ce qu'ils espéraient, sans donner de montant. Hein. Sans donner de chiffres précis, et ni même de pourcentage, tu vois, on a vendu moins, enfin, tant de moins qu'on pensait, enfin bref, ils n'ont pas donné de précision. Mais clairement, ce qui a un impact sur la valeur de l'entreprise, sur le résultat global, quand on parle en milliards de résultats, qui a un impact sur le résultat d'Electronic Arts, une boîte de cette taille-là, c'est eSports FC.
Pour moi, eSports FC, enfin. eSports FC pour Electronic Arts, c'est l'équivalent du nouveau Call of pour Activision. C'est-à-dire que si le Call of y tousse, Activision tousse. Mm-hmm. Alors, ils ont de la marge. Hein.
Oui,
ils ont de la marge. Mais, entre guillemets, si on.
Par rapport à ce qui est prévu, par rapport à ce qu'ils ont.
Activision, ils sortent pas des milliards de jeux par an. Mm. Ils savent qu'il y en a 2-3 qui sortent.
Ça pète quand ça sort.
Que pour une raison X ou Y, GTA 6 se vend pas si bien que ça. Mm. C'est pas Rockstar qui va tousser. C'est tout qui est entier qui touche. Ouais. D'accord. C'est parce que ce sont des jeux qui ont une importance massive pour leur éditeur.
Et surtout, eSports FC, c'est un jeu qui marche aussi beaucoup sur les microtransactions intérieures du jeu.
Bien sûr.
Donc tu achètes le jeu évidemment 60 balles, 70 balles, 80 balles, enfin on en est là maintenant, en fonction des plateformes, hein, c'est si sur console tu paies toujours plus cher. Mais toujours est-il que oui, si tu vends moins de jeux, bah du coup tu vendras moins de microtransactions sur la durée. C'est pas qu'une rentrée de cash d'un coup à la vente, c'est une vache à lait sur l'année entière. Parce que tu vas vendre des packs de cartes toute l'année. Donc, c'est assez important. Et
il y a des raisons derrière ou pas? À part justement, il y en a qui évoquent FIFA, l'abandon de FIFA, mais apparemment ce serait pas le cas.
Pas tant que ça. Le jeu n'a pas non plus été, on va dire, considéré comme beaucoup moins bon. Enfin,
non, parce que le truc, c'est que c'est pas un crash façon lancement de Assassin's Creed Unity. Mm. qui a provoqué le début du déclin de la marque Assassin's Creed, où je sais qu'il y avait, je sais plus quel Call of qui s'était fait un petit peu bâcher, ça s'était reparti mieux après directement, mais il y a même pas eu de retour critique spécifiquement mauvais, c'est juste le jeu est pareil.
Comme tous les ans. Donc c'est pour ça que c'est même pas une différence.
Est-ce que ce serait pas un début de lassitude? Et moi,
je sais pas.
Je sais que moi, ce que je me suis dit, c'est peut-être une lassitude par rapport au sport lui-même.
C'est une bonne question. Après,
est-ce que le foot fait autant rêver qu'auparavant? Je sais pas.
Très honnêtement,
j'en sais rien.
Je me rends pas compte. Je sais pas si ça peut se placer de cette
façon-là.
Parce
qu'il y a un seul jeu de foot. Hein.
Bah maintenant oui, parce que du coup ils ont flingué PES qui est un petit peu revenu par la bande avec leur
sport. Il existe et qu'ils ont un rapport avec football, la FIFA, tout ça, ouais.
Ah oui, ça c'est encore, oui, on verra si ça arrive.
J'entends bien.
C'est une bonne question. En vrai, à moins que l'autre possibilité, c'est que Electronic Arts s'attendait encore à mieux, à vraiment beaucoup plus que ce qu'il a fait. Parce que encore une fois, on n'a pas vraiment d'informations et personne n'a vraiment creusé. Ce qui a été la première réaction, ça a été de dire regardez, ils ont voulu faire un jeu woke avec The Veilguard, donc ils se sont plantés, donc c'est ça qui.
Oui, et puis une fois de plus, c'était plus facile de balancer ce jeu-là sous le bus plutôt le train qui est censé arriver à l'heure.
Ouais.
Ce jeu-là avec la campagne, médiatique, de toute façon, s'il se faisait bâcher, c'est un truc
normal entre guillemets.
Et puis en plus, ça va bien avec. Ils ont communiqué ça quand?
Il y a 2 semaines, un truc comme ça.
Il y a 2 semaines. Même pas. Bon, l'élection de Trump et la nomination de Trump, c'est janvier. oui, début janvier.
Mal prononcé Elon Musk, mais oui.
Et voilà. Et tout le côté woke, c'est pas bien, tout ça, c'est assumé dans la fenêtre d'Overton et dans le discours public. Mm-hmm. Donc c'est absolument entendable de dire non mais voilà on s'est planté
alors c'est vrai que c'est intéressant
d'un point de vue discours,
PR, tu vois, et public aussi. Mais ce qui est intéressant, ce qu'ils ont dit hier ou avant-hier, ce qu'ils pensaient, c'est que le jeu n'avait pas performé autant, et je reviens toujours sur Veilguard, sur Dragon Age, parce qu'ils avaient justement pris la décision à un moment d'enlever tout le contenu live service, jeu service, etc. Ce qui est, à mon avis, pas vraiment valable, parce que un Baldur's Gate 3 a cartonné complètement sans. Et on a eu il y a 48 heures, on a eu un exemple flagrant de ça, Kingdom Come Deliverance 2 de Warhorse, qui est sorti donc mardi.
Oui.
1 million de ventes en 24 heures.
Oui.
Donc non, c'est un jeu solo pourtant qui n'a pas de système de microtransactions dedans. Et pourtant il a juste absolument cartonné. Donc c'est pas un argument. Et le dernier clou dans le cercueil,
ils ont quand même fait mordre le visage.
Bah, et surtout, enfin tu peux pas dire ça, alors que justement tu refuses d'évoquer eSports FC qui lui est complètement farci de microtransactions et de toutes ces mécaniques que tu dis que tu regrettes de pas avoir mis dans Dragon Age de Veilguard. Ça n'a aucun sens. Ça a aucun sens. Et d'ailleurs, tout le monde leur tombe dessus à ce niveau-là en leur disant qu'ils ne sont pas cohérents dans leur analyse. Mais bon, c'est un. On a évoqué le sujet vite fait. Il y aurait pas mal de choses de plus à dire, en fait, je pense, sur le truc pour être complet. Mais voilà, juste vraiment, si on se base sur la déclaration d'Electronic Arts sur les résultats et les deux jeux, finalement, qu'ils ont décidé de balancer sous le bus, un plus que l'autre, enfin, un bien devant l'autre. C'est intéressant, comme tu dis, comme exercice de relations publiques en soi. Mais il y aurait sûrement d'autres choses à dire, mais on arrive au bout.
Oui, effectivement,
donc,
c'est la fin
de se souhaiter une bonne fin de soirée.
Merci à toi.
Ben, merci à toi surtout.
C'est pour le coup essayer d'analyser les discours des gros éditeurs après une
ce qu'ils appellent eux-mêmes une déception.
Une déception, c'est toujours intéressant, et en perspective de c'est quoi une déception, et en perspective de tiens, quel jeu on va mettre sous le bus là-dedans,
et quelles seront les conséquences.
Et quelles seront les conséquences,
c'est PC Gamer là qui venait de faire un article en disant ok, ça veut dire quoi, ça veut dire que le jeu que BioWare est en train de préparer maintenant, BioWare qui s'est fait amputer d'une bonne partie de ses employés, mais ça aussi c'est
moi je pense
il faudrait prendre le temps d'en parler.
Je pense que là ce serait une bonne idée d'en parler la semaine prochaine de la partie employés de
oui, complètement, il y aurait vraiment quelque chose à dire, mais
je pense qu'il y a de quoi tenir un petit bout de temps sur cette partie là ouais.
On fera ça, très bien,
bonne soirée
à toi,
à jeudi prochain,
absolument,
bye,
bonne soirée,
ciao.